nous on parle en tout cas de Hugues Rebelle avec ce satrape de Néo.
Je suis un sale satrape, c'est ça ?
Mon vieux Néo.
Mon petit Yann.
Qu'est-ce que vous avez emporté comme boule puante musicologique, musicale ?
Ah oui, vous m'avez demandé ça, j'ai un peu tard, donc je me suis dit, mon Dieu, je suis allé rechercher dans mes petites archives. Bah, je vous ai lancé toute une série de chansons, je ne sais pas ce qui vous a...
Anaëlle, vous connaissez les goûts de Néo ?
Pas du tout.
Mathilde, expliquez à Anaëlle oui. qui est Nicolas Dessendorf, parce que manifestement, tout le monde n'est pas encore au
oui.
jus.
Alors, Nicolas Dessendorf, c'est quelqu'un que j'admire, parce que, et notamment avec le dictionnaire...
Vous pouvez monter votre chaise, hein, mon
avec le dictionnaire du mauvais goût, où on a pioché, dans d'autres émissions passées, vous étiez parmi nous, des définitions de mots dits de mauvais goût, et dont j'ai dû... en lire hein, pour certaines, et qui étaient...
Avec talent et avec verve, on va le dire.
Il y avait quoi comme entrée dans votre dictionnaire du... Ouais, continuez Mathilde, après on lui demandera ce qu'il y avait comme entrée.
Oui, tout ça pour dire que je pense que ça relève du génie, un génie peut-être pas compris par tout le monde, mais en tout cas qui est très drôle, et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans l'antenne libre.
Oh, Mathilde, là je suis à vos pieds, je ne sais pas quoi dire d'autre.
Il y avait quoi comme entrée dans votre dictionnaire ? Rappelez-nous quelques entrées inacceptables.
Bah, ça allait de A à Z, donc d'andouillette à zone d'activité commerciale, mais il y avait... Écoutez, il y avait Francky Vincent, il y avait Tony Duvert, il y avait Dieudonné, il y avait Renaud Camus, mais il y avait Les Ombrelles à Cocktail, il y avait les Faunes Papillons, il y avait les livres de Martin Monestier, les films de Jean-Pierre Mocky, les chansons de Francky Vincent, de Didier ouais. Super, de Guy Edret. Beaucoup de choses.
Comme définition du mauvais goût, quelles étaient celles qui vous ont plu, en dehors de celles que vous savez, parmi vos amis
Non, par exemple, j'aimais bien.
J'avais répondu, définition du mauvais goût, j'avais répondu Bernard Werber.
Voilà, sans commentaire. La définition que. Bah, moi, j'ai une vieille sympathie pour celle de ce bon Baudelaire qui dit que c'est le plaisir aristocratique de déplaire, que moi je pratique, et que je défends et que je promeux. Sinon, Kefelec disait une chose assez juste, il disait que c'est le bon goût avec une pointe canaille. Mmh. J'aime bien cette formule-là. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je viens, on reparle en fait, oui. de ce livre-là.
Et Adèle, c'est. Qu'est-ce que ce serait pour vous le mauvais goût ? Vous pouvez donner un exemple, pas forcément une définition.
Un exemple de mauvais goût ?
Oui.
C'est très vaste, hein, c'est pas forcément...
Un... Ça peut être un geste, un comportement, ça dépend.
Oui, mais un exemple concret.
De mauvais goût ?
Oui, hein, quelque chose, vous dites ça vraiment, c'est de très mauvais goût. Non, parce qu'il y a le mauvais goût, dans son dictionnaire, Annelle, je précise, hein, et Mathilde le sait, il y a le mauvais goût qu'on aime et le mauvais goût qu'on ne supporte pas.
Il va celui qu'on aime, on met un cœur, celui qu'on ne supporte pas.
Il va vous donner deux exemples. Néo, donnez-nous un exemple. Donne-nous un exemple de mauvais goût que t'aimes bien et un mauvais goût que t'aimes pas.
Ah bah, je l'ai dit au début. Andouillette, un cœur. Zone d'activité commerciale, un las de pique.
Voilà. Alors, essayez,
okay,
Naël,
j'ai déjà.
De trouver un truc mauvais goût que vous aimez, mauvais goût que vous n'aimez pas.
Bah alors moi, c'est vraiment un geste. J'ai horreur. Je ne sais pas si on peut appeler ça du mauvais goût. Mais les gens qui touchent leur barbe comme ça constamment, je trouve que c'est du mauvais goût.
Merde, je fais
voilà.
le début.
Alors je sais pas si ça fait partie, si on peut
ça,
le faire
entrer. Ça c'est quelque chose qui vous agace.
Non, je trouve que c'est un...
C'est une répulsion que vous avez.
Je sais pas. Est-ce que les gestes peuvent faire partie des mauvais
goûts ? Bah oui, de toute façon c'est subjectif oui. le mauvais goût. Nos mauvais goûts sont différents et ils peuvent même se confronter. Et c'est mon dictionnaire à moi. Et si c'est votre dictionnaire du mauvais goût d'Anaëlle, ça commencerait par les gens qui se tripotent la barbe.
Et voilà. Le mauvais goût que vous aimez bien ?
Ça peut être, je sais pas, peut-être. Moi, j'aime bien ce qui n'est pas, ce qui paraît inélégant de base.
Mais un exemple.
Par exemple.
un vêtement, enfin, un peu déchiré. Je trouve ça stylé. C'est un peu, je sais pas si on peut dire, c'est du mauvais goût.
Ouais, c'est rentré dans la mode. Ça, c'est du mauvais goût en 77.
Ah, mais... le too much.
Le too much.
C'est du mauvais goût, mais je trouve ça stylé.
D'accord. Mathilde, quand c'est trop.
Vous en mettez trop.
Mathilde, vous, un exemple de mauvais goût que vous aimez, et mauvais goût que vous n'aimez pas.
Alors, un mauvais goût, quelque chose de mauvais goût que je n'aime pas, je ne sais pas le mot exact, le fait d'être accosté dans la rue de manière totalement inappropriée. Ouais. Comment on pourrait définir
ça ? La drague lourde.
La drague lourde, par exemple, ça c'est de mauvais goût avec as de pique.
Ouais.
Et quelque chose...
Et c'est très fréquent, j'imagine.
C'est fréquent, ouais. Je pense, pour beaucoup de femmes, ouais. Oui. Et...
Oui, je parlais au nom des femmes en général. Hein.
Et c'est vrai que, en termes de mauvais goût que j'apprécie, je dirais, ça peut être les vieilles chansons françaises, peut-être même des chansons un peu paillardes, mais qui peuvent être très rigolotes.
Là, vous êtes bien tombé.
Oui, enfin, je
on
sais.
On a fait pour s'entendre, Mathilde, vous savez bien.
MC Benoît me dit qu'on a tout, sauf Jean-Yann, dans vos bulles puantes musicales.
Ah. Est-ce que vous avez, par exemple, le tango de la cuisinière de Gaston Ouvrard ?
Je trouve que
ce serait le moment d'écouter du Gaston Ouvrard,
Benoît. Bien sûr. Benoît, vous avez du Ouvrard ?
Je n'ai que ça.
Il n'a que ça. C'est
alors,
parti.
Je pense qu'on peut écouter le tango de la cuisinière.
On dit que c'est pour longtemps.
Et oui, Ouvrard, Gaston Ouvrard.
Le vrai comique troupier, le dernier géant de l'humour troupier.
Bah moi, j'en connais
un. Le tourlourou.
J'en connais un, moi, un géant du comique troupier. Et il s'appelle Pascal Margaux. Anaëlle, je crois que vous allez devoir nous quitter.
Oui.
Eh bien, nous sommes enchantés d'avoir entendu votre chronique, même si elle était longuette. Mais sur le fond, c'était excellent. Vraiment, je vous le dis, excellent. Alors, vous revenez quand vous voulez, la porte est grande ouverte.
Voilà. Ça marche.
Vous prévenez Mathilde juste le matin et puis hop, voilà.
Ok, ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup et bonne soirée.
Merci à vous, Anaëlle.
Au revoir, Anaëlle.
Au revoir.
Au revoir. Donc, je connais moi un génie de la gaudriole et je ne suis pas le seul à le connaître. J'ai ici des acolytes qui ont fait connaissance avec ses capacités. Si par exemple, je dis à Benoît, Pascal Margaux, que répondez-vous, cher Benoît, au nom de Pascal Margaux?
Je dirais chute sur un trottoir. C'est plus d'un...
À la palme.
À la palme.
Voilà.
Ça rappelle des... rappelle de ça.
C'est un homme qui chute sur les trottoirs. Mais personne ne peut l'oublier sauf lui.
D'ailleurs, mon cher...
Personne ne l'a vu surtout.
Oui.
Benoît. À part lui.
Je voulais dire qu'en termes de mauvais goût,
oui.
Je pratique quelque chose de mauvais goût, mais que je trouve fantastique.
Oui.
C'est que je pense être le seul homme en France de 23 ans
oui.
à toujours me moucher dans des mouchoirs en tissu.
Ah ça, ça doit plaire à Néo, ça.
Qui appartiennent à mon grand-père.
Ah, avec les initiales
qui appartenaient à mon grand-père.
Est-ce qu'ils ont été lavés entre-temps?
Non, justement, c'est pour ça.
Ça, c'est l'élégance.
et voilà. Et il m'arrive aussi de traîner un petit peu en claquettes chaussettes. C'est un autre mauvais goût.
Ah ouais, claquettes chaussettes, c'est quand même...
impossible.
Bon, en tout cas, merci pour ces aveux qui ne sont pas faciles en plus à...
Je me confesse.
À confesser. Je suis donc, on est quasiment en plein margoton avec Pascal Margaux et je voudrais établir une liaison Margaux-Néo. Mon cher Pascal, nous sommes en train de parler de quelque chose que vous connaissez plus que bien, c'est le mauvais goût.
Oui.
Avant, on va parler beaucoup en deuxième heure de Hugues Rebel, mais là j'aimerais parler un peu du mauvais goût. Mon cher Margaux, qu'est-ce que oui. le mauvais goût pour vous? Je vous passe Néo et si vous avez des exemples à vous échanger, j'en serais ravi.
Alors, bon, du coup, bonjour à tout le monde, parce que du coup, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Donc, si on doit parler du mauvais goût, je t'avouerai que je suis un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça. Mais le mauvais goût par rapport à quoi?
En général, il y a le mauvais goût.
La mode.
Est-ce que t'as fait des choses, par exemple, dans ta vie de très, 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 très mauvais goût?
Oui, mais est-ce que je peux tout dire?
C'est le principe. Le mauvais goût, l'intérêt, c'est que il y a autant de mauvais goût que d'individus. Donc le mauvais goût, c'est notre part d'ombre. C'est ce qu'on n'ose pas dire. C'est ce qu'on fait dans cette émission ici. C'est qu'on vient dire ce qu'on n'ose pas dire ailleurs. C'est ça.
Pascal Margaux, avez-vous un exemple de mauvais goût? Là, Benoît vient de nous confesser des choses de très mauvais goût.
Et
Nicolas Sendorf vous exhorte à le faire.
Si je me réfère à Benoît, des choses qu'on n'ose pas dire et qu'on n'a jamais dit, ou en tout cas on l'a dit à quelques personnes, c'est sûr que j'ai beaucoup d'exemples.
Ah.
Donc une exceptionnelle.
Ah.
Non mais je ne suis pas persuadé que... Alors je vous avouerai que c'est un petit peu...
Benoît, vous gardez la main sur la manette au cas où d'un micro a coupé. Hein.
Oui, je pense qu'il va falloir couper les micros là parce que...
Bah non, vous êtes en direct Margaux.
On vous écoute.
Ouais, mais j'étais pas prêt à ça. Je fais juste une petite parenthèse.
Ah.
En tout cas, ça me fait très plaisir de vous revoir et de discuter avec vous.
Sur Europe 1, 23h46 en direct, l'antenne libre.
Ouais. Franchement, ça fait un moment qu'on s'est pas vu et pas vu, entendu. Et du coup. Je suis un peu pris de court, mais alors si
j'avais vraiment
ce
mauvais goût inavouable, maintenant vous nous l'avez annoncé, il faut qu'on le sache.
Est-ce que vous êtes sûr?
Ah bah évidemment, on est là pour ça. On est entre nous, vous savez, on est en tout petit comité, c'est feutré là où on est, on vous écoute.
Une question, c'est pas quelque chose d'interdit par la loi, Pascal. C'est pas quelque chose d'interdit par la loi.
D'accord. Okay.
Non, je veux dire, votre exemple de mauvais goût n'est pas interdit par la loi.
Ah non,
vous pouvez y aller.
C'est pas du tout interdit, mais par contre c'est pas forcément c'est pas flatteur.
D'accord, mais moi du moment que ça tombe pas sous le coup de la loi, vous pouvez dire ce que vous voulez.
Et c'est une forme de modestie et d'honnêteté et d'abnégation de votre part de nous le confesser justement.
Alors est-ce qu'il faut que
le suspense est à son comble sur Europe 1 en plein margoton. Suspense, le mauvais goût
d'accord.
de Pascal Margaux.
Alors, la confession goût, je sais pas, mais en tout cas, alors, si moi j'ai perçu un jour du mauvais goût, j'en ai pas fait cas, mais par contre, si moi je devais avoir sur moi une situation de mauvais goût, j'en ai plein à raconter. Donc, si je devais le raconter sur moi, effectivement, j'en ai une à vous raconter.
Ah,
mais alors là, vous m'arrêtez.
Jamais.
Hein?
Allez, Margot, non. Pascal Margot, dans.
Non. Non,
la confession.
Vas-y.
Non, je ne vais pas la dire celle-là.
Oh non.
C'est impossible. Oh non.
Oh non. Coitus interruptus, Margotus.
Oh non, non. C'est vrai, c'est un effet d'annonce. Hein. Je le fais, mais je le fais pas. Oh non, je le dis ou je le dis pas.
Tu veux ou tu veux pas?
Ouais, mais là, on est en direct sur Europe 1. Vous avez mis toute la France en haleine et vous allez raccrocher?
Ah non.
Ah non. Alors, je vais pas raccrocher, mais par contre, ça me ferait très plaisir de raconter. Une énorme connerie que j'ai faite il y a une dizaine d'années. Je peux vraiment le raconter pour de
oui,
vrai ou
oui.
Vous allez me censurer?
Non,
c'est le du direct, alors dites-le vite, comme ça on le saura.
On rend un hommage à Nicolas Desciendorf et son dictionnaire du mauvais goût.
Ah, alors si ça fait partie du
mais
dictionnaire
c'est le sujet,
du mauvais
c'est le
goût...
Sujet. N'est-ce pas Mathilde?
Ah oui, c'est le sujet de ce soir.
Vous avez l'imprimatur de Mathilde.
Ça se bouge pas du pied gauche.
D'accord, donc du coup, toutes les conneries que j'ai faites pendant 10 ans, donc du coup, c'est complètement validé.
Rentre dans le cadre de l'émission de ce soir.
D'accord. Donc, alors, c'est une histoire improbable. C'était il y a une dizaine d'années, j'étais dans mon appartement et je me retrouve avec une copine que je voulais séduire et avec qui j'aurais aimé ce qui se passe plus et à cette fameuse soirée je me rends compte que du coup je l'invite et je lui offre un apéritif et du coup je prépare un petit apéritif.
Sainte Donna, priez pour nous. Sainte Constance, priez pour nous. Sainte Nadia, priez pour nous, pauvres pécheurs.
Non mais Yann, t'es sûr que je dis, hein.
Vas-y, mais... Laissez-le, ne le coupons pas.
D'accord.
Ne le coupons pas, on vous écoute Margot.
Ah putain, je vous jure. Vous dites Margot, mais demain vous coupez, vous changez tous les noms, et je ne m'appelle pas Margot, je m'appelle Marguerite. Hein. Impossible.
Maggie.
Maggie.
Rosivart.
Non mais attends, je vous raconte une histoire de dingue.
Ouais,
mais
vas-y,
de
Maggie.
Dingue. Donc, un mec normal, dans une ville normale, un mec qui séduit une nana normale. Et un petit peu plus avec moi, et c'est vrai, j'étais un petit peu intimidé parce que on avait 17 ans d'écart. Et bon, bref.
Attends.
Dans quel sens?
Oui, dans quel sens? Attention.
Alors, de plus que moi.
Ah, on respire tous, ouais. la station.
De plus que moi. Ah putain, mais t'as mis la musique. Mais je te jure, Yann, si je raconte ça, mais tu m'avais. Ah, mais. Bon, allez, je m'en fous, j'en raconte.
Allez.
J'en ai rien à foutre. Et puis après, je vais vous dire autre chose.
Non, mais vas-y, ne dévie pas. Allez, Margot. Maggie,
okay.
Rosie.
Donc, du coup, Maggie, qui tombe amoureux d'une nana qui a 17 ans de plus que lui, et me v'là un soir à la séduire. Mais forcément, tu mets le paquet, t'as 17 ans de moins qu'elle. Donc, tu t'adaptes à la personne et à l'âge, machin ou quoi. Et tu dis, bon, bah, je vais faire un petit apéritif et puis je vais la recevoir à la maison. Et vous connaissez très bien, je ne sais pas si je te l'avais déjà raconté l'autre fois, le sketch de Franck Dubosc, les pruneaux.
Lequel?
Les pruneaux. Mais,
les pruneaux
Ouais, les pruneaux. Non, mais en plus, quand tu dis les pruneaux, tout le monde va dire, ouais, il a chié dans un bac, machin, tout ce que tu veux. Et c'est sûr que ça fait rire tout le monde, et en plus, ça ressemble à rien. Mais moi, couillon, 17 ans d'écart, je me dis, bon, elle doit aimer les pruneaux, donc je fais un petit apéritif dans mon appartement très sympa que j'avais, et je rencontre cette nana qui avait 17 ans de plus que moi, et on fait un petit apéritif. Sauf que le problème, et alors là, je vous le jure que c'est vrai. Mais tellement j'ai honte et tellement c'est vrai que en fait, je me suis retrouvé à ce moment-là à me dire, tu fais des pruneaux à une nana que tu connais pas qui a 17 ans de plus que toi, et tu sais que les pruneaux, c'est un problème. Et moi, le problème, 17 ans de plus que moi, j'ai paniqué.
La panique. De quel point de vue ?
Ben, j'ai bouffé des pruneaux.
Oula ! Et donc, après, t'as paniqué ?
Ben, paniquer, c'est plus que paniquer. Donc, c'est qu'à un moment donné, la soirée étant passée, devait se passer ce qui devait se passer.
Mais les pruneaux.
Et c'est vraiment en direct, ça ?
Oui, oui.
Oui.
Ah merde.
Ah ben, bah, c'est le prince, oui, c'est, bon, alors, c'est le cas de dire.
On va, garder un peu de suspense. Mathilde, prenez vos esprits. Mathilde fait sa chronique et Pascal, comme ça, vous pouvez reprendre votre esprit et vous concentrer.
Il peut manger des pruneaux.
Voilà, Mathilde.
Et tu sais quoi, je la raconterai encore mieux après parce que là, je l'ai pas bien raconté.
Voilà, bah, à tout de suite. Mathilde.
Alors, après avoir écouté beaucoup de rock, on s'est dit que ça serait bien de changer et pourquoi pas écouter un peu de reggae. Ça change, non ? Alors, ce week-end, Nicolas et moi allons défendre respectivement les faces A et B de l'album Exodus de Bob Marley et The Wailers.
Très bon choix.
Il est sorti il y a 46 ans, le 3 juin 1977. Et pour commencer, je vous propose le titre Natural Mystic, un des classiques du groupe jamaïcain. Ici, l'auteur parle d'une force naturelle mystique et l'importance de s'éveiller à elle. À ses yeux, les temps ont changé. Des personnes vont encore souffrir et mourir. Pourtant, il conseille d'être attentif à cette force naturelle qui nous entoure, car personne ne pourra l'arrêter. There is a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. Il y a un vent mystique qui souffle dans l'air. Je ne peux les réprimer. Vous écoutez Natural Mystic sur Europe 1.
Natural Mystic, Exodus, Bob Marley and the Wailers sur Europe 1, 23h57. Mathilde, quelque chose me dit que c'est pas Nicolas et vous qui avez choisi cet album. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais figurez-vous que c'est Nicolas qui a choisi cet album.
Oui, mais il a dû être largement influencé par quelqu'un, non ?
Ah, sûrement.
Oui. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Mathilde ? Non ?
Non, c'est...
Ah, je voyais avec vos fiches. Attendez, alors moi, je dois rajouter quelque chose. On est là, évidemment, pour parler aussi de Hugues Rebel ce soir. On a toute une heure encore pour ça. Mais avant, alors je dois lire quelque chose qui se trouve, alors numéro 60. Alors je tourne le petit classeur et je vais lire le numéro 60, vote pour le coup de cœur RSE des auditeurs. Ils sont quatre et ils sont nommés pour la 8e édition des Trophées Européens de l'avenir, catégorie coup de cœur RSE des auditeurs. Les copains de Bastien, le mouton givré, Colette Club, etc. C'est très important. Raphaël Delvolvé est arrivé dans le studio, mais on a encore un peu de temps, Néo.
Ah ben moi je suis là, je suis dans la joie.
En quelques mots, avant que Raphaël Delvolvé nous présente les informations, en quelques mots pour ceux qui nous rejoignent, qui est Hugues Rebel ? 1867-1905. Qui est cet homme ? En quelques mots, syllabes, vite.
Hugues Rebel, écrivain oublié, grand talent, météore, littérature française, fin du 19e siècle, roman, énergie, originalité, audace,
obésité.
Perversité, obésité, gourmandise,
mauvais goût.
Malaise, mauvais goût, grand talent, grand auteur.
Et vous avez eu combien d'articles sur ce livre qui est sorti Parce que vous avez fait la préface, hein, je précise.
J'ai fait la préface, chez la bouquin. Pareille critique, le choix, c'était
combien
mon idée.
Combien d'articles dans la presse
Écoutez... Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont à venir. Quand on est invité deux heures sur Europe 1, mais une soirée
combien
sur Europe 1 avec Anne-Moix.
À l'heure où on parle, il y en a eu.
Écoutez, je ne sache pas qu'il y en ait encore un, mais je l'espère, je l'attends, je le guigne, je le convoite.
C'est un acte extraordinaire
voilà.
Ce que vous avez fait là.
Mais
moi,
oui,
j'adore
je sais.
Ce genre d'acte.
Voilà.
Il est 23h59 sur Europe 1. Il me reste 7 secondes, même 6 maintenant, mon cher Néo. On va arrondir à 4 et si ça peut vous faire plaisir, on va même dire 2, car il est minuit et Raphaël Delvolvé nous présente son bulletin d'information.
Nous sommes sur Europe 1, j'en ai la preuve. Yann Moix est là avec moi dans le studio et il est minuit passé de 3 minutes et 43, 44, 45, 46, 47. Je peux comme ça continuer jusqu'à ce qu'il soit minuit et 4 minutes.
Je ferai en général à l'envers. Merci Raphaël, c'est très gentil à vous de proposer à Mathilde de lire
Merci
une
Raphaël.
Brève.
Elle le fait tellement bien. Que...
Très sympathique de votre part, hein, vraiment.
Oui.
Il est minuit 4 sur Europe 1 et l'antenne libre, mes amis, continue. Non, je pensais qu'il y aurait peut-être une petite...
Une petite battle ?
Ah oui, c'est vrai, il a raison, j'ai oublié la battle.
Vous voulez la faire ?
Ah non, j'ai envie de la faire parce qu'elle est de très mauvais goût ce soir.
Ah.
Alors, la battle, c'est parti. Néo, vous pouvez participer.
Raphaël Delvolvé et Yann Moix dans la battle.
Bonsoir Michel.
c'est parti, on va commencer par mon choix. Mon cher Benoît, c'est à vous.
C'est qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas ma nouvelle couleur ?
J'adore tes nouvelles couleurs.
Et ben alors ?
J'adore tes nouvelles couleurs.
Et ben alors ?
Tes cheveux verts avec une djellaba mauve, c'est d'un goût plus que douteux, chérie.
T'as toujours quelque chose à dire, hein. Qu'est-ce que t'es médisant ?
Le plus grave dans tout ça, c'est que tu fais vraiment très très folle, tu
vois. Mais tu t'es pas regardé ?
Oh,
on
doit
vieux
pas
de l'eau à la retraite. Oh, oh, oh. Vraiment,
non, mais
là,
vraiment, t'as pas de miroir chez toi. Allez, tricote et tais-toi.
Mais t'en as pas de miroir chez toi.
Oh, vraiment,
sinon, tu serais
alors,
pas là.
Je te présenterai jamais à mes parents, ça c'est sûr. Mon père, j'ai honte, j'ai honte. Rien qu'y penser, j'ai dit honte.
Je te dis pas, hein.
Ça ne peut pas être tenu de soirée.
Non. Nicolas Dessendorve.
Je suis en train de réfléchir, c'est pas la cage aux folles de toute façon.
Mathilde, Nicolas.
Aucune idée.
Non, j'ai rien.
Raphaël.
Non, j'ai vraiment la djellaba mauve, là, c'est.
Un indice, un film de 1987.
C'est pas Gérard Flock.
Non.
L'âge d'or du mauvais goût.
Personne ne voit.
Non.
Les indices.
Un film d'été. Un film de plage. 1987. Je vous donne votre langue au chat.
Ouais, ouais.
Néo.
D'autres indices, je sais pas.
Oui, mais...
est... Ah
bah
oui, bah,
alors
beau.
D'accord, un indice.
Il veut peut-être.
Dedans, il y a Daniel Derval.
Les si je indices.
Alors je vais vous donner les acteurs. Leïla Fréchet, Éric Reynaud, Luc Armé, Noël Noblecourt, Daniel Derval, Brigitte Lahaie. Ah oui, Brigitte Lahaie.
Je ne reconnais mais absolument
Sylvain
aucune
Green,
voix dans l'extrait.
Claude Brunat, Philippe Baronnet, Patrick Guillemin, Frédéric Deban, Véronique Catanzaro, Catherine Rousseau, Bettita Anthony, Sébastien Floch, Bernard Casasus, André Daman, Marcel Philippot.
Mais oui, son âme.
Marcel Philippot, Edith Devlaine, Jean-Marie Blanche et Bernard Rosselli.
Ça, c'est du Pax Pécasse, quelque chose comme ça.
Oui, c'est un Pécasse.
On se pose en Boisfray à Saint-Tropez.
Exact. Excellente réponse. On se calme et on Boisfray à Saint-Tropez. Bravo. On se calme et on Boisfray à Saint-Tropez.
Ça, c'est le côté. Vous avez dit film de plage, donc voilà.
Voilà. Je suis absolument.
Je vous ai beaucoup aidé, mais.
Dépassé.
Et quand il y a plein d'acteurs totalement inconnus dans ces dates-là,
oui,
c'est généralement Max
mais
Pécasse.
Vous êtes fort parce que vous auriez très bien pu confondre avec deux enfoirés à Saint-Tropez.
Et la semaine dernière, c'était Debout l'écran.
Debout l'écran de Grand Jouan. À vous.
Voyez,
alors, attends, le jingle du loser.
Del Volvé, you are a loser.
Pardon, Michel. Je suis désolé. Bien. À mon tour.
C'est parti.
Moi, il y a des noms connus.
Les ennemis de la République dont nous nous vantons, mes compagnons et moi-même, d'être les défenseurs...
Putain, les farouches défenseurs de la République, Alcazar.
Quel con, je finirai pas à les écrire moi-même.
Dites donc,
Ginette, le canuet, il a pas répondu. Qu'est-ce qu'il y a?
Votre oncle Zeb.
Mort?
Il s'est pendu.
Ah. Pour vieux. Quand ?
Bah, cette nuit, probablement.
J'y vais.
Mais. Oh non, monsieur le président, mais à 11h, vous avez rendez-vous avec le patronat français ?
Le patronat français, je l'encule.
Oh.
C'est pas quand les gros salaires lèvent le doigt ?
Non. On est en 1982.
En 82. En 1982, on pourrait écouter un petit morceau ?
Les ennemis de la République dont nous nous vantons, mes compagnons et moi-même, d'être les
qui
défenseurs...
Qui parle,
putain, les farouches défenseurs de la République, Alcazar.
Quel con, je finirai pas à les écrire moi-même.
Avertissez le président discrètement.
Dites donc, Ginette, le canuet, il a pas répondu ?
Bah, c'est François Cluzet, là, qu'on vient d'entendre. Mais c'est pas un film de Jean-Yann.
À chaque fois, vous butez sur cet acteur. Hein. Vous m'avez déjà fait le coup.
Ah,
hein.
Ah bon ?
Oui, oui. Avec la carapate, vous m'avez fait le coup. Un acteur...
Vous donnez son vrai nom.
C'est un film de qui, ça ?
Alors, c'est un film de Jean-Pierre Mocky.
Ah, c'est un Mocky.
1982, avec le scénario.
Ah, c'est un Mocky.
Avec un scénario. Avec un scénariste.
Ça peut être À mort l'arbitre.
Ça n'est pas Amant à l'arbitre.
Ça peut être en 82. Hein.
82. Espèce de satire.
Et l'acteur principal.
Ça peut être les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants.
Ça y ressemble. On chauffe là, on brûle.
Ça peut être.
Qui n'a pas adapté.
Non, c'est pas Une nuit à l'Assemblée. Hein. Ça, c'est 92.
Non.
Hein.
Non. Alors, scénario signé Frédéric Dard.
Ah oui.
On entend Victor Lanoux. Oui.
Bah, il a fait un San Antonio.
Dominique Lavanant.
C'est un San Antonio.
Ça n'est pas. Ça y est, c'est Santonio-esque, mais c'est,
oui,
c'est pas Santonio.
Non, mais c'est
avec Jacques Dutronc,
avec Jacqueline Maillot.
Oui. C'est un titre
avec Jacques Dufilho.
Mais c'est un titre immense, qui joue le rôle de l'homme caché derrière la baignoire.
Avec Emmanuel Riva.
Mais c'est un titre
avec François Cavanna. Avec François Cavanna, absolument.
Moi aussi, je joue au casting d'Emmanuel Riva. Moi aussi.
Mais c'est un titre de Frédéric Dard, un des livres de Frédéric Dard.
Alors.
Mais il n'a pas fait d'imi.
Il a adapté deux fois Frédéric Dard.
Il a
adapté le Marie Léo oui, et celui-là.
Magnifique.
Okay. Un indice.
Ben, là, je vous en ai donné pas
mal. Ils sont tous là, les
indices. Ouais, non, je suis d'accord. Néo, je pense que Néo va trouver.
Ah, bah oui, moi je
sais. Il va trouver au bout de 15
quand
secondes.
Quand j'ai entendu, la voix de Victor Nataf, dit Victor Lanoux, dire
à Alors, le titre est une question.
Avec un Y.
Y a-t-il un Français dans la
salle ?
Bravo, Yann Moix.
Ah, pardon, je suis désolé.
Capillot traité.
Y a-t-il un Français dans la salle ?
Bon, qui est un des meilleurs films de Jean-Pierre Mocky.
Et d'ailleurs,
c'est un très bon film.
Très bon film.
Et d'ailleurs,
c'est Dominique Lavanant qui fait cuire ses chats. Ah,
c'était l'époque.
Par Jean-François Stévenin.
On considère ça comme une comédie.
Absolument.
C'était l'époque où il y avait beaucoup de Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Exactement.
Y a-t-il un Français dans la salle ? Bien sûr.
Et le bouquin de Sandrine était très bien d'ailleurs.
Ah oui. Merci. Écoutez,
match nul.
Hein, on va faire comme ça. Et Néo a trouvé les deux hein, quand même.
Ah,
mais c'est un grand moquiste. D'ailleurs,
heureusement que Néo ne vient que de temps en temps, sinon la battle n'aurait plus de raison d'être.
Dans le dictionnaire du mauvais goût, Mocky a son entrée.
Mais bien sûr.
Et vous savez qu'un jour on est allé un jour avec Nicolas Desiendorf dans une salle voir un Mocky dans sa salle, le Brady, le passage Brady. Et dans la salle du Mocky, il n'y avait que les acteurs du film qu'on est en train de voir qui venaient s'abriter parce que c'était sans abri.
Ils étaient tous FDF.
C'était FDF. Et c'était pour le...
Furet, non ?
Non. C'était le bénévole.
Ah, le bénévole.
Parce que je joue dedans, figurez-vous. Dans le bénévole. J'ai des scènes dans le bénévole, mais ça restera pas dans l'histoire du cinéma.
Mais ça existe. Vous avez joué avec Mocky, ça vaut toutes les légendes.
Il hurlait, mais c'était gentil, en fait. Il engueulait tout le monde. Je me souviens très bien. Et tout le monde l'appelait monsieur. Ses assistants, tout le monde le voyait l'appeler monsieur. C'était bon. Merci Raphaël.
Merci Chérie.
Pour ce Frédéric Dard Mocky.
Vous
connaissez Hugues Rebel ?
Pas bien.
Et vous connaissez Pascal Margaux ?
Pas bien.
Il est en ligne toujours ?
Toujours.
Ah bon.
Bonsoir Pascal.
Il y a l'archive de Nicolas et on reprend un petit Margoton. Merci Raphaël.
Bonne soirée messieurs. Au revoir Mathilde.
Europe 1, antenne libre. Yann Moix accompagne vos nuits.
Il est minuit 12 sur Europe 1 et nous faisons ce soir un spécial Hugues Rebel. 1867-1905, Hugues Rebel, auteur notamment, il y a beaucoup de livres, mais de chefs-d'œuvre absolument inoubliables, mais malheureusement oubliés comme La Nichina, comme par exemple aussi La Câlineuse, je dirais des extraits, La Camorra, Les Nuits Chaudes du Cap Français, Femme Châtiée, et Chant de la Pluie et du Soleil, qui est totalement inédit, et que Nicolas Desiendorf a redécouvert pour vous, Hugues Rebel aux éditions Bouquins, un auteur à redécouvrir de fond en comble parce que manifestement il était enseveli, le pauvre. Nicolas.
Bonsoir Yann.
Comment allez-vous ?
Bonsoir cher Néo.
Vous êtes très bien Néo. Content de voir Néo.
Ah oui, je suis très content.
Et Pascal Margaux qui nous tient en haleine.
Oui, tout à fait.
Et en pruneau.
Vous vous souvenez bien, vous voyez bien qui c'est, Pascal Margaux.
On ne peut pas le louper.
On ne peut pas le louper.
On peut pas l'oublier.
C'est un vrai personnage et un très bon. Quelqu'un de très drôle, de très spirituel, de très intelligent.
très sympathique.
Et qui va toujours jusqu'au bout des choses. Et c'est un homme qui aime Nevers, et les gens qui aiment Nevers, moi, ce sont mes amis. Nicolas.
Alors ce soir, j'avais envie qu'on écoute une voix qui nous manque, et que vous imitez très bien d'ailleurs, Yann. C'est celle de Jean d'Ormesson. J'ai retrouvé dans les annales d'Europe 1 un de ses passages sur notre antenne. C'était en 1979. Il était l'invité de Robert Villard, qui présentait l'émission intitulée « Qu'est-ce qui vous fait rire ?». Et Jean d'Ormesson raconta ses souvenirs d'enfance et évoqua son père. Écoutez.
Vous savez, j'ai été une exception, surtout il y a 10 ou 20 ans, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, là j'ose le dire, ont marché dans mes pas. J'étais une exception parce que j'étais très lié avec mon père et avec ma mère. Et à une époque où Sartre avait écrit « Il n'y a pas de bon père, c'est la règle », je représentais l'exception. Et j'étais en effet très très lié avec mon père. Oh, vous savez, je lui ai posé certainement beaucoup de problèmes.
Il semblerait, oui, d'après ce que vous en dites dans vos livres.
Je ne suis même pas sûr que je ne l'ai pas désespéré à plusieurs reprises. Mais vous savez, il y a un mot de Hegel qui est sublime, qui est « les enfants sont la mort des parents ». Et je pense que tout fils qui ne désespère pas son père, eh bien, je n'augure pas très bien de son avenir. Mais au-delà de ça, j'avais pour mon père beaucoup d'affection et d'admiration. Pour dire les choses d'un mot, mon père était, je l'ai répété très souvent, pardonnez-moi, était en même temps, je mets les mots entre guillemets, pour lui, pour son temps, pour son milieu, un homme de gauche politiquement. Il était ambassadeur de Blum et ambassadeur du Front Populaire, et un homme d'extrême droite dans les mœurs. Je me rappelle que quand j'avais non pas 16 ans ou 17 ans, mais 20 ans ou 21 ans, c'était une espèce de course de Sioux autour du téléphone. Parce que dès que le téléphone sonnait, j'essayais de répondre moi-même parce que je savais que si c'était lui qui répondait et que par malheur, c'était une fille qui m'appelait, je connaissais la réponse de mon père, c'était « Qu'est-ce que vous lui voulez encore ?»
Voilà. Ah, il nous manque un Jeannot. Ouais. On l'a un peu connu, Nicolas, nous, Jeannot.
Un petit peu, vous l'avez sans doute plus connu que moi. Je ne sais pas si on se voit et on se tutoie, mais...
Oui, moi, je vous vois tant en temps, je vous tutoie.
Oui, on est bien, on est dans la joie.
Jean d'Ormesson. Ben, le pauvre, il n'avait qu'une peur, c'est qu'il lui arrive le syndrome d'Édith Piaf, c'est-à-dire mourir le même jour... Le syndrome Jean Cocteau, oui. Et mourir le même jour que quelqu'un de très connu. Cocteau est mort le jour d'Édith Piaf.
Prokofiev est mort le jour de Staline.
Oui, et donc Jean d'Ormesson, quasiment le même jour que Johnny. Et ce qui est marrant dans le journal de Cocteau, qui s'appelle comment ça s'appelle ? Bon bref, j'aurais mieux fait de me taire. Bref, je vais retrouver. Il y a plein de passages où il décrit la maladie d'Édith Piaf. Édith Piaf très malade, Édith Piaf très malade, Édith Piaf va bientôt mourir, etc. etc. Et malheureusement, il est mort quasiment le même jour, quelques heures d'Édith Piaf, qui lui a volé la vedette d'une certaine façon. Enfin, c'est la vie, hein. c'est la mort. Merci Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure pour la phase B.
Oui, Yann, à tout
et,
à l'heure.
Ça m'ennuie de ne pas retrouver le nom du journal de Jean Cocteau, on va le retrouver. Hein. C'est paru en plusieurs tomes chez Gallimard. Et c'est un journal extraordinaire où il se plaint souvent de ne pas être compris, d'être toujours rabaissé au rang de mondain académicien. Et voilà, c'est vrai que c'est triste. C'est vrai que c'est triste car Cocteau est un immense écrivain. Le passé défini, ça s'appelle. Mon cher Nicolas, nous allons repartir avec la musique du suspense. Si Benoît est dans les parages, il peut peut-être nous envoyer. Pascal Margot est en ligne et une partie de la France est accrochée à ses lèvres. C'est parti, Pascal Margot Bonjour. Dans La Confession.
Alors, La Confession, je ne sais pas, mais par contre, depuis tout à l'heure, vous parlez, donc du coup, je suis un petit peu perdu. Quel est le sujet, en fait, du coup ?
Le mauvais goût.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Le mauvais goût. Il y avait 17 ans de différence. Il y avait un apéritif, il y avait une femme. Il y avait des pruneaux, Pascal.
Tu sais quoi, Nicolas ?
Oui.
Tu sais quoi, Nicolas ?
Oui.
C'est une mauvaise personne. Tu te rappelles de ça ?
Ah, ben,
c'est une mauvaise personne.
Mais les pruneaux, ils me sont restés dans le coin de la gorge, Pascal. Je veux savoir
alors,
ce qui s'est passé.
Alors, je ne sais pas si ça convient à l'émission le mauvais goût, mais en tout cas, au-delà du mauvais goût, c'est que ce soir-là, enlevez-moi cette musique-là. Ce truc est un petit peu... Non, Alors, donc du coup, je vous finis l'histoire. Ouais. Je vous finis l'histoire. 17 ans d'écart, ouais. Une soirée comme n'importe qui, ouais. Improbable, et Pruneau.
Mathilde, Nicolas, Benoît, j'ai peur.
Je peux le dire ou pas ?
Ouais, vas-y. Vas-y, Pascal.
Une envie de chier.
Non, avec d'autres mots. Avec d'autres mots.
Mais tu vois, je peux pas le dire.
Avec d'autres mots.
Voilà, Pascal nous parle de sa pêche. La paix, l'ennemi est aux portes.
Une envie de pêcher.
Ah, Pascal.
Une envie de pêcher, mais comme personne. Mais alors, c'est vraiment un truc incroyable. Et pourtant, j'ai pêché. Hein. Mais là, je peux vous dire que ce soir-là, j'avais très envie de pêcher. Et me voilà tout seul dans mon appartement avec une femme extraordinaire, 17 ans de plus que moi, qui m'attendait dans la chambre. Et j'avais deux solutions. Soit tu pêches, Yann, tu enlèves tout ça. Soit tu pêches dans la caisse du chat. Et même le chat m'a regardé, il m'a dit, si tu chies dans ma caisse, toi, plus jamais je te parle. Et par contre, si tu chies dans la poubelle, c'est terminé. Donc voilà. Ah putain, mais Yann.
Ça y est,
c'est impossible de dire ça.
Ça y est, tu l'as dit.
Eh ouais, mais putain, je ne devais pas le dire.
Eh oui, mais ça, c'est l'effet des pruneaux.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Tout simplement.
Va pour les pruneaux. Donc du coup, me voilà un soir un petit peu perdu avec une dame.
Spécial mauvais goût sur Europe 1 minuit 20, Nicolas Dessendorf.
Oh, t'es vraiment un enfoiré, toi. Mais putain, t'es vraiment
surtout, comment ça s'est terminé en fait ? C'était la caisse du chat ?
Non, du coup, ça finit dans l'évier. Oh, putain.
Dans l'évier ?
Allez, stop, j'arrête. Ça s'est fini malheureusement dans l'évier. Et comme, à mon avis, comme beaucoup de mecs qui se retrouvent sûrement dans plein de situations comme ça, un petit peu dérangeantes. Ça a été ma soirée ce soir-là où ce soir-là j'ai dû faire avec ce qu'il y avait. Bon, mais écoutez, c'est pas grave.
Il y avait beaucoup.
Mais c'est pas la question s'il y avait beaucoup ou pas. C'était une mauvaise soirée. Une très bonne soirée à la base. Mais très mauvaise soirée au final.
Comme disait l'autre, j'ai passé une excellente soirée, mais c'était pas celle-là.
Exactement.
Une autre anecdote, cher Pascal ?
Oula, j'en ai plein, mais alors malheureusement, ça me fait un peu chier parce que. C'est tellement moche et c'est tellement mal dit, c'est tellement mal raconté que. Ben vous savez quoi ? On se rappelle la semaine prochaine.
D'accord.
Et alors j'en ai un paquet à vous raconter.
D'accord.
Merci Pascal.
Ce sera la pastille mauvais goût de Pascal Margot.
Voilà.
Margot, l'homme au pruneau.
Pascal, les huîtres, ça se passe bien ?
Super. Ouais. On travaille comme des fous à partir de demain.
Tu peux nous rappeler comment s'appelle ta petite cahute ?
Est-ce que tu penses que vraiment on doit le dire là après ?
T'as raison.
Tu sais quoi ? On va pas le dire.
Est-ce qu'il y a un évier dans cette cahute ?
Oui, mais il m'est déjà arrivé d'avoir des accidents. Donc surtout, n'hésitez pas. Tous les gens qui viennent en vacances dans le sud de la France, du côté de Le Cat, Argelès, Saint-Cyprien, Canet-en-Roussillon, venez. Et on sera là et vous allez passer de bonnes vacances.
Merci Pascal et à très vite.
À bientôt.
Au revoir Pascal.
Bientôt.